bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, on attaque la deuxième partie de l'interview avec Claudia Baillargeon, qui est une experte en nutrition, une ancienne sportive d'élite. Donc si vous n'avez pas encore entendu la première partie de cette interview, je vous encourage à aller écouter l'épisode précédent. Puis autrement, je vous accueille dans cet épisode où on va continuer à parler de santé, de nutrition. Ça va être passionnant, je vous l'assure. Alors, à tout de suite.
Je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'alimentation et à la perte de poids. Parce qu'il y a une de mes questions, c'était... il y a beaucoup de gens, généralement des femmes, mais pas que, et qui ont une relation difficile avec la nourriture et leur corps.
Ouais.
Ou justement le pourquoi, en fait, il perd un peu du sens parce que ça devient perdre du poids pour perdre du poids. Comment ou par quel chemin est-ce qu'on peut déjà commencer à retrouver une relation plus apaisée avec la nourriture?
Oui, ça, c'est une grosse partie de mon coaching parce que moi, personnellement, étant athlète de haut niveau en passion artistique, j'ai passé à travers des troubles alimentaires dans ma début vingtaine. Ça a été quelques années de thérapie, de guérison, de comprendre ça venait de où, de réaliser que c'était vraiment la conséquence d'autre chose. T'sais, moi, j'étudiais dans le domaine et j'avais cette problématique-là. Donc, c'était vraiment un trouble de santé mentale et non un trouble de « je manque de connaissances en nutrition », tu sais. Donc, de reconnaître ça, que c'est intimement lié à des choses qui se passent entre nos deux oreilles et non parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on devrait manger, tu sais. Mm-hmm. Ça devient un même mécanisme que l'alcool, la drogue, le porno, le shopping, ou peu importe, tu sais. Où est-ce qu'on commence? C'est sûr que plus on travaille ensemble le quoi de la nutrition et la relation avec la nutrition, plus on se donne d'opportunités d'avoir du succès. Ce que je veux dire par là, c'est que physiologiquement, tu as plus de chances, encore pas d'avoir de la chance, mais tu as plus de chances d'avoir des cravings de sucre, de vouloir te défoncer dans la nourriture, de manger beaucoup, beaucoup de calories. Si tu as des carences alimentaires, si tu manques de protéines, si tu n'es pas bien hydraté, si tu ne manges pas de façon régulière, etc., etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'assure premièrement que le côté quoi de la nutrition, des piliers qu'on a déjà parlé, l'hydratation, les macronutriments, les carences alimentaires, etc., etc., de rajouter des choses qui nourrissent, bien, au moins le côté physiologique, il y a moins de chances d'affecter. Désolée, c'est un klaxon assez intense. Il y a moins de chances d'affecter les cravings, les rages de sucre, les rages de sel, etc. Plus tu as de l'énergie aussi, que tu es moins fatigué, que ta digestion va bien. Par exemple, tes surrénales, qui sont deux glandes en haut des reins, bien eux, quand tu as le taux de cortisol, le taux de stress dans le tapis tout le temps, que tu es super stressé, bien ça se peut que tu aies des cravings, que tu aies envie de manger du sel parce que ces glandes-là, ils ont besoin d'aide. Si tu as des carences en magnésium, en zinc, ça se peut que tu aies des cravings de sucre et que tu aies envie de manger du chocolat au complet. Fait que tous ces petits exemples-là pour vous montrer l'importance d'aussi travailler le quoi de la nutrition quand on veut travailler la relation avec la nutrition. Après, souvent, là, ça vient d'une espèce de pattern ou de programmation de vouloir être trop dans des extrêmes. C'était certainement mon cas à moi. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on se limite, on est dans une diète restrictive, on se dit qu'on n'a pas le droit de X ou qu'on triche sur notre diète, on utilise des mots à connotation très, très négative qui font en sorte que quand on est juste un petit peu à côté de ce plan-là idéal qu'on s'est fixé, bien là, le gavage commence ou la restriction encore plus intense commence ou il y en a malheureusement qui sont dans l'anorexie, la boulimie, tu sais, un petit peu plus grasse comme trouble alimentaire. Et c'est ce genre de répercussion-là, de conséquence de cette restriction-là qui fait en sorte que notre relation devient très, très malsaine avec la nutrition. Donc, c'est de reconnaître c'est quoi tes patterns à toi. Moi, dans mon cas, je passais d'un extrême à l'autre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le terme orthorexie. Mm-hmm. C'est peut-être moins connu que l'anorexie, la boulimie, mais c'est vraiment cette obsession-là avec manger santé. Tu sais, je mangeais même plus de fruits parce que je me disais, oh mon Dieu, il y a du sucre dans les fruits. Je passais des heures à l'épicerie à regarder évidemment là, tous les ingrédients. Ma liste d'aliments que je me permettais était vraiment, vraiment rendue très, très courte. Je m'empêchais d'aller manger chez des amis parce que je ne pouvais pas contrôler ce que j'allais manger. Et je conservais ça pendant quelques semaines. Et à un moment donné, c'était comme, OK, go! Mon corps, il en demandait. Mon émotionnel en demandait. Mon mental en demandait. Et là, je bingeais, hein, comme on dit en franglais. Je me gavais et je me permettais, mettons, le samedi soir, de manger tout ce que je pouvais. Et ce cycle-là, d'un extrême à l'autre, a duré quelques années jusqu'à temps que je retrouve l'équilibre. Donc, pour la personne qui nous écoute, puis que peut-être ces cycles-là de restriction ou gavage ou d'anorexie, boulimie ou juste manger ses émotions, hein, ça n'a pas besoin d'être un trouble plus grave, entre guillemets, mais tu sais, quand tu as l'habitude de toujours boire ton stress dans ton verre de vin ou manger ton stress ou ton ennui dans le sac de chips, bien, ce que je propose, c'est de, un, reconnaître l'émotion en premier. Tu sais, moi, par exemple, quand j'étais vraiment dans mon pic, j'étais en Australie, qui a été mon premier long voyage, mon premier chapitre de vie nomade, bien, à la fin, je mangeais littéralement de l'ennui. Tu sais, je m'ennuyais de la maison, j'étais un peu homesick, comme on dit en anglais. Donc, la nourriture est devenue une source de réconfort, elle est devenue un ami qui était là pour m'aider, pour me faire sentir moins seule. Une fois que je comprends pourquoi j'utilise tel aliment pour compenser, gérer ou même repress, donc vraiment...
Abaisser,
merci, l'émotion, bien, je peux me trouver d'autres stratégies pour cette émotion-là. Si tu manges à chaque soir parce que tu t'ennuies toute seule chez toi, bien, est-ce que tu peux peut-être appeler une amie? Est-ce que tu peux t'inscrire à une activité quelconque? Est-ce que tu peux trouver un nouveau passe-temps? Est-ce que tu peux te procurer un chat ou un chien qui t'amène cette compagnie-là? Donc, nommer l'émotion, trouver d'autres stratégies pour vivre cette émotion-là ou remplacer la stratégie qu'on a, hein, de coping. Et en parallèle avec ça, travailler sur retrouver un équilibre. T'sais, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me dis, OK, j'ai le droit de manger un muffin n'importe quand dans ma semaine. Ce n'est pas obligé d'être le samedi soir. C'est pas obligé d'être 12 muffins parce que je me dis, je pourrais peut-être plus en manger pendant un mois. Mm. De retrouver l'équilibre, et moi, la règle du 80-20 m'a vraiment aidé. C'est quelque chose que je mets de l'avant avec mes clientes. C'est quoi la règle du 80-20? C'est que, comme dans n'importe quoi dans la vie, 80% du temps, si tu respectes les principes fondamentaux, que tu manges, comme on a dit, les aliments près de la nature, etc., etc., bien, il y a un 20 ou un 10%, tout dépendant de tes objectifs, durant ta semaine, que tu peux te permettre un verre de vin quand tu as un 5 à 7 avec tes collègues. Tu peux te permettre un morceau de gâteau au chocolat quand c'est la fête de ton fils. Tu peux te permettre une pointe de pizza parce que tu as envie de manger de la pizza un vendredi soir. Mais se permettre cette flexibilité-là, cet équilibre-là, sur le long terme et surtout sur la santé mentale, c'est vraiment, vraiment... Ça s'apprend, c'est pas facile, mais c'est vraiment, vraiment efficace pour reconstruire cette relation.
Oui, et puis ça va très vite. Tu parlais de la restriction, ben... C'est vraiment comme un barrage, au final. Tu mets le barrage, il y a tout qui s'accumule derrière, puis quand tu enlèves le barrage, tout d'un coup, ça vient et tu manges 15 fois plus que ce que tu aurais mangé. Justement, si tu t'étais accordé ce muffin durant la semaine, ben, tu ne sentirais pas le besoin de faire des réserves le samedi soir.
C'est ça.
Et moi, ça m'avait frappé. J'ai eu une période où j'avais mis un peu de ventre et je m'étais dit, ah, j'arrête les féculents, complètement débile. Et du coup, je mangeais de la salade, juste de la salade. Mais en une semaine, je pouvais ressentir ce phénomène de « Ok, la semaine, ça va, je tiens. » Et puis le week-end, c'était de nouveau n'importe quoi. Donc, ça peut venir très, très rapidement, même pour des gens qui n'ont a priori pas une sensibilité par rapport à ça. Et un truc que je vois aussi très souvent en consultation, parce que là, tu parles des effets... Voilà comment on juge, quelles sont les attentes de perfection, de tout ou rien. Finalement, pas mal de biais cognitifs qui déterminent comment on va se sentir. Puis il y a le côté aussi, estime de soi, qui rentre souvent en ligne de compte. Si on, tout d'un coup, la condition à notre valeur, c'est notre corps, notre apparence, ou ça peut être une identité. Hein. Tout d'un coup, je suis vegan, et puis les gens... me suivre sur Instagram parce que je suis vegan. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est ça, ma valeur, ça devient cette condition-là. Et donc, manger, même si tout d'un coup, j'aurais envie de manger un bout de poulet, ça devient un monstre big deal. C'est parce que, il y a d'autres choses qui sont liées à l'alimentation qui, à la base, finalement, est juste un moyen de faire fonctionner notre corps.
Absolument. Puis, sais, ça serait le troisième cercle à travailler en parallèle avec, comme je disais, l'équilibre, ça, et le quoi, la nutrition. C'est absolument ça. Parce que en dessous de tout ça, là, des habitudes alimentaires que tu as qui sont peut-être malsaines de cette relation-là, tu sais, je pense que tu vas être d'accord, pas mal tout part de ton estime de toi. Parce que, tu sais, en plus, moi, il y avait énormément de honte. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Surtout étant dans le domaine, je suis au gym toute la journée, j'aide les gens à s'entraîner, à mieux manger. Et après ça, parce que j'ai un inconfort, que je me sens pas bien dans ma peau, que j'ai une mauvaise estime de moi, que j'accepte pas que, par exemple, j'ai pris un petit peu de gras après ma carrière de patinage artistique, mais je m'en vais à l'épicerie, faut que personne me voit acheter du chocolat, je cache ça dans mon sac. Il y avait énormément de honte d'avoir ces comportements-là étant une professionnelle de la santé. Fait que d'aller travailler, là, ouais, mais pourquoi tu sens que tu as besoin de te cacher? Parce que toi aussi, tu as envie de manger un muffin. Je prends l'exemple du muffin parce que moi, c'est quelque chose que j'aime, mais bref, que ce soit l'alcool ou des chips ou du popcorn ou de la crème glacée, tu sais. Puis ça part tout de mon estime de soi. Et plus j'ai travaillé sur je m'accepte, je m'aime, mon corps, je l'apprécie parce qu'il me permet de faire X, Y, Z, bien le poids que j'avais pris superflu à cause de cette mauvaise relation-là avec la nourriture, puis mes phases d'extrême d'un côté et de l'autre, bien mon corps est revenu à qu'est-ce qui était supposé être. Sans que j'aie besoin de faire de diète ou de suivre de plan alimentaire, mais c'est de travailler les émotions autour de ces comportements-là. Et ça, c'est quelque chose que j'explique aussi à mes clientes. Si tu es dans une soirée, puis pendant que tu es en train de manger le repas, qu'il y a peut-être plus d'alcool, de calories, de sucre que d'habitude, on s'entend, tout le monde mange un peu différemment. C'est une soirée, c'est un événement spécial. Et si avant, pendant et après que tu manges ce repas-là, tu es dans la honte, tu es découragé, sens mal, t'es frustré parce qu'entre guillemets, tu triches sur ta diète. C'est littéralement prouvé que ça, les émotions vont ralentir ta digestion et les aliments que tu vas manger vont avoir un effet plus néfaste sur ton corps en termes de rétention d'eau, en termes d'inflammation. Et ça, c'est le fameux phénomène, on se réveille le lendemain matin, on s'en va se peser et on a 2 kilos de plus sur la balance et là, on est encore plus découragé. Versus manger exactement la même chose. Le même nombre de calories, exactement la même chose que tu mangerais, mais t'es de bonne humeur, t'es relax, t'apprécies chaque bouchée, tu te sens pas coupable après parce que t'as apprécié cette soirée-là, ben littéralement, tu vas mieux digérer physiologiquement ces aliments-là, donc moins de rétention d'eau, moins d'inflammation, et ça affecte moins ton poids. Fait que c'est intimement lié comme ça.
Et je trouve super intéressant parce qu'il y a le côté d'être en pleine conscience quand tu manges ça. Et ça, c'est quelque chose que quasi tout le temps, quand on va justement manger des chips, du chocolat, toutes ces choses-là, très souvent, on les mange très rapidement. On ne se rend même pas compte finalement quel goût ça avait vraiment.
C'est ça.
Et puis, on en mange beaucoup plus du coup. Donc, c'est vrai que le fait rien que de prendre le temps si j'ai du plaisir, si je dis que j'ai du plaisir à manger des chips, il faut au moins que je prenne ce plaisir-là quand je le fais.
Exact.
Pas que je sois à moitié en pilote automatique. Et l'autre chose dans ton exemple, c'est aussi mettre l'attention et l'importance où elle doit être. Parce que si on se rend à un anniversaire ou une soirée, peu importe, le principal, c'est de rencontrer des gens, de rire, de s'amuser, d'échanger, et pas exactement ce qu'on va manger. Et donc, c'est finalement, on perd à tous les niveaux quand on commence à se préoccuper trop de quelque chose qui doit être juste normalement instinctif. Et remettre en fait l'alimentation à sa place, c'est notre carburant. C'est là aussi pour se faire plaisir, mais ça ne doit pas être la chose qui est centrale dans notre vie.
Ouais, exact. Et c'est pas facile, parce qu'on se fait tellement bombarder de on doit tout perdre du poids, on doit tout avoir des silhouettes parfaites, on doit tout, tu sais. Fait que c'est pas facile, ce qu'on vous dit là, mais ça se fait, j'en suis la preuve. Et toutes les centaines de femmes avec qui j'ai travaillé, ça se fait améliorer sa relation avec la nutrition. Donc, faut prendre les petits conseils qu'on a dit aujourd'hui, puis se donner le temps. Donner le temps de retravailler ça, c'est sûr.
J'ai quelques questions qui étaient très spécifiques. Je te les pose un peu comme ça. C'est très spécifique, donc je ne sais pas si tu as des réponses vraiment à nous donner. Si c'est le cas, tant mieux. Autrement, tant pis. Il y avait, par rapport à différentes problématiques, notamment, est-ce qu'il existe des aliments pour prévenir la dépression saisonnière?
C'est sûr que la vitamine D m'est venue en tête tout de suite.
Ouais.
Il y a des aliments qui contiennent la vitamine D, mais c'est très, très, très petit. T'sais, la vitamine D, c'est probablement la vitamine que pour en avoir un minimum, on est presque obligé d'aller en supplémentation.
OK.
Donc, c'est un supplément que je recommande. T'sais, moi, je prends la vitamine D même l'été, même quand il y a du soleil, je suis dehors. C'est très rare qu'on prend trop de vitamine D. Les recommandations sont très basses aussi, donc on peut facilement dépasser, surtout si c'est l'hiver et qu'il y a cette déprime-là saisonnière. Donc, ça serait ce que j'aurais envie de dire. Aussi, tu sais, sans que ça soit un aliment spécifique, mais je pense que de varier un petit peu notre alimentation avec les saisons, ça peut aider. C'est quand le froid s'installe, que les journées plus grises s'installent, que bon, le soleil va se coucher un petit peu plus tôt, mais c'est peut-être pas le temps là, de boire des smoothies super froids ou de manger de la salade très, très fraîche avec plein de crudités. Peut-être qu'on veut se tourner vers des potages, des soupes, c'est de l'avoine réconfortante, des épices comme de la cannelle, ce genre de choses-là plus réconfortantes. C'est aussi, tu sais, dans la philosophie même chamanique, tu sais, de suivre les phases des saisons, ce rythme-là qu'on a circadien, ça peut aider. Donc, ça serait mes deux petits conseils.
Oui, puis en suivant ça, ben, on s'assure d'avoir une alimentation variée, parce que du coup, on
C'est
est
ça.
obligé d'aller consommer des légumes de saison, des fruits de saison, et ça va
Exact.
varier plutôt que ce qu'on a eu la semaine standard toute l'année, qui va très souvent limité, comme je mangeais quand j'étais étudiant, où c'était courgettes, tomates, et puis des produits surgelés à longueur d'année.
C'est ça.
Et par rapport à la dépression saisonnière, c'est vrai qu'il y a vitamine D et luminothérapie, c'est
Oui,
vraiment ce
aussi.
qu'il y a de plus recommandé, également aussi pour toute dépression. Donc c'est vrai que si il y a des gens qui nous écoutent, qui voient qu'il y a une réelle baisse d'humeur entre novembre et mars, ça vaut vraiment la peine d'aller investiguer ça.
Absolument.
Il y a une question par rapport au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le fameux TDAH, qui est quelque chose qui est extrêmement diagnostiqué en ce moment. Et moi, ma grande critique par rapport à ça, c'est que c'est rare qu'on aille investiguer finalement les habitudes de vie derrière ça, puis qu'on ne se pose pas la question que peut-être derrière un déficit de l'attention, peut-être que le fait de passer 5 heures sur les réseaux sociaux dès qu'on a une seconde de libre, de manger des tonnes de sucre, de pas s'hydrater, de pas faire de pause, etc. Peut-être ça pourrait avoir un impact, mais est-ce que au niveau nutrition, il y a des choses qui aident à ce niveau-là?
Les aliments qui ont du colorant, je cherchais le mot en français, là, du colorant, comme dye en anglais. Des fois, là, on s'achète. Je vais prendre un exemple du muffin. Un muffin au bleuet. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas de bleuet, en fait, dans les ingrédients parce que c'est un muffin qui a été transformé, qui a été littéralement fabriqué par plein d'ingrédients, souvent non chimiques. Et souvent, il y a littéralement du colorant pour aller chercher l'aspect bleu, en fait, qui n'est même pas du bleuet. Je pense à certaines céréales qui ont des couleurs vraiment fluo, hein? Donc vert fluo, rose fluo, orange fluo. C'est très attrayant pour les enfants qui veulent manger des Fruit Loops super fluo. Bien, il y a du colorant là-dedans. Donc, il y a des études qui démontrent qu'un colorant pour l'hyperactivité TDAH, ça serait vraiment à éviter au complet le plus possible.
OK.
Après, il y a peut-être que tu connais Julien Mark Hyman,
Non.
qui je l'étudie beaucoup. Il y a un podcast qui s'appelle The Pharmacy, mais avec un F pour food, hein, la nourriture qui devient notre pharmacie, en fait. Il écrit plusieurs livres. Et lui, il a fait beaucoup de recherches puis d'études, puis il parle beaucoup de l'inflammation et évidemment l'inflammation, un peu comme le stress. Ça nous en prend un petit peu de stress, ça nous en prend un peu d'inflammation. Le problème, c'est quand ça devient chronique. Quand on a de l'inflammation chronique chez les enfants, les ados ou même les adultes, évidemment, ben il y a comme un lien aussi très, 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 très cause à effet sur déficit d'attention et tout ça. Donc, c'est quoi les aliments qui causent de l'inflammation? On l'a déjà dit, hein, tout ce qui est transformé, qu'il y a des longues listes d'ingrédients qu'on n'arrive pas à prononcer le mot, qu'il y a des trucs artificiels dedans, des trucs chimiques, des aliments aussi qui, par leur nature, c'est différent d'Europe. Je l'ai remarqué quand j'étais là à l'automne versus, par exemple, en Amérique du Nord. Mais tu sais, on pense à tout ce qui est gluten, produits laitiers, maïs, les arachides, bon, évidemment, l'alcool. Des aliments qui n'ont peut-être pas une méga réaction allergique quand tu en manges, mais parce que ces aliments qui ont été arrosés beaucoup par les pesticides, c'est des aliments qui, la façon qu'ils ont été nourris, si on parle, par exemple, des produits laitiers aux grains ou, tu sais, bref, ça peut créer de l'inflammation dans ce qu'on parlait tantôt à notre gut, notre microbiome, mais ça, c'est directement lié à créer de l'inflammation au niveau du cerveau aussi, à cause de ce nerf-là. Donc, réduire tout ce qui est transformé, hein, puis réduire le sucre aussi rajouté qui est transformé, mais réduire aussi les aliments qui vous créent de l'inflammation, ça serait vraiment un bon conseil pour aider ça.
Et petite note, c'est vrai que tu parlais au début, tu as commencé en disant qu'il y a de plus en plus d'études qui montraient qu'il y avait des liens quasi directs entre l'alimentation et la santé mentale. Je crois qu'on peut presque même enlever le quasi. Il y a de plus en plus d'études par rapport à, ben, à la colère. Alors, c'est une émotion, mais plus de sucre, plus de gras augmente les accès de colère par rapport à la dépression, à l'anxiété. Donc, que ce soit des carences, par exemple, en magnésium, dans d'autres substances, enfin, d'autres micronutriments aussi. Je ne les connais pas tous. Mais il y a des liens vraiment directs. Il y a une de mes questions qui était sur le, enfin, qu'on m'a posée, c'est quel rôle joue l'alcool sur notre mental? Bon, je pense à nouveau, on pourrait en parler très longtemps, c'est assez spécifique. Au-delà de l'inflammation qui va causer ben, éventuellement des maladies chroniques, du stress, de la dépression, tout ça, est-ce que l'alcool, il joue encore d'autres rôles qui peuvent être... négatif pour nous?
Oui, je suis vraiment, vraiment pas une experte dans les effets de l'alcool sur le corps, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose de positif sur la santé à boire de l'alcool. Bon, vous allez me dire, dans le vin rouge, il y a des antioxydants, il y en a qui ne jurent que par le vin rouge. Je comprends. Si on devait les classer en ordre de nombre de bénéfices, probablement que oui, le vin rouge serait en haut de la liste. Ceci étant dit, ce que ça fait aussi l'alcool, c'est que ça va vider nos réserves de glycogène. Les glycogènes, quand on mange des glucides, pain, patates, fruits, pâtes, grains, céréales, etc., etc., ben les glucides, c'est de l'énergie facilement et rapidement accessible par le corps et ça se transforme en glycogène dans notre foie et dans nos muscles, entre autres. Donc, on a besoin d'être dans l'action, de réfléchir. Le cerveau utilise beaucoup de glucides pour se nourrir. Bien, rapidement, on va aller chercher ces réserves-là de glycogène dans nos muscles et dans notre foie. Fait quand on boit de l'alcool, ça vient vider plus rapidement ces réserves de glycogène-là. Là, tu vas te dire, ouais, mais c'est quoi le lien avec la santé mentale? Tu as moins d'énergie. Tu sais, le lendemain, quand tu as bu quelques verres, est-ce que ça tente dans l'effort de l'activité physique? Peut-être pas. Donc, c'est surtout les conséquences que ça peut avoir sur notre mode de vie et sur nos autres habitudes qui, peut-être indirectement, viendraient affecter, entre autres, comment on se sent. Mais juste l'ingrédient d'alcool,
ouais.
Parce qu'on a déjà parlé, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure chose.
Et pareil, alors je ne peux pas donner de détails là-dessus, mais j'ai entendu dire que ça n'a pas seulement un impact le lendemain, qu'on peut tous ressentir, même en n'ayant pas bu beaucoup, mais c'est finalement sur 3-4 jours. Alors après, il y a les effets à long terme, évidemment, mais... Donc, finalement, si on boit, même si on a l'impression qu'on ne boit pas beaucoup, on boit deux fois dans la semaine, même si c'est un, deux verres, ça aura un impact. Et on vient à ce côté, ne pas se rendre compte de ce que c'est que de vraiment vivre quand on se sent bien.
Exactement. Tu sais, il y a des processus qui se passent dans le foie aussi, la lipolyse, la lipogénèse, qui aident à régulariser aussi à quel point on va brûler du gras ou qu'on va utiliser tout ça. Quand on boit de l'alcool, ces processus-là sont un peu inversés. Donc, le processus qui est supposé t'aider à brûler du gras puis à brûler des calories est ralenti et vice-versa. Fait que c'est pour ça que c'est comment, ben, je bois juste un verre de vin ou un verre de temps en temps durant ma semaine. Ben, souvent, les gens qui coupent complètement l'alcool se rendent compte que même s'ils ne buvaient pas beaucoup, regardons ça, ils perdent du gras beaucoup plus facilement. Fait que pour la perte de gras aussi, ça a cet effet-là, au-delà évidemment des calories qu'on ingère, par exemple, si on prend des boissons qui sont plus caloriques.
Mm-hmm.
Mais oui, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que mon but dans la vie, là, ça serait que tout le monde, au moins une fois, une semaine dans leur vie, puisse se sentir comment ils sont supposés se sentir, t'sais, avec de l'énergie, avec de la vitalité, et pas accepter ces petits symptômes-là d'être un peu gonflé, se réveiller le matin avec pas trop d'énergie, avoir un petit mal de tête en fin de journée, mesdames, avoir des périodes qui sont douloureuses. On normalise tellement de symptômes parce qu'ils sont communs, parce que tout le monde, ou pas tout le monde, mais il y a une grande partie de la population qui le vivent, qui le ressentent aussi. Fait qu'on se dit, ah, c'est normal d'être un peu fatigué en fin de journée, c'est normal d'être un petit peu, c'est ça, gonflé, d'avoir des petits boutons. Mais quand on se donne l'opportunité là, de vraiment faire un beau ménage, d'avoir des bonnes habitudes de vie de façon constante, puis on fait comme, ah, c'est ça, avoir de l'énergie, tu sais, ah, j'ai plus mal à la tête ou j'arrive à me concentrer. Si tout le monde pouvait se sentir comme ça au moins une semaine, ben on n'en aurait pas besoin de motivation. Tu sais, ça serait beaucoup plus facile d'aller continuer ces bonnes habitudes-là.
Alors, Claudia, bon, déjà, merci infiniment. Je n'ai pas fait la moitié des questions. je trouve vraiment top comment on est parti aujourd'hui.
Merci.
On arrive gentiment au bout. Je t'avais dit, ouais, je ne pense pas qu'on fera une heure. Ben, finalement, on y est. Mais petite question, rien à voir avec le sujet, mais comme tu es venu visiter la Suisse en automne dernier, et tu y as passé, enfin, tu as vraiment fait un sacré tour. Voilà, je voulais juste, comme il y a pas mal de Suisses qui écoutent forcément ce podcast, savoir un peu quelles ont été tes impressions. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué, que ce soit enfin, positivement ou négativement? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont vraiment frappé? Voilà, ça m'intéresse d'avoir un petit retour.
Ah oui, merci pour cette question. Ah, la Suisse, j'en rêve encore. En fait, moi, la Suisse était dans mon top 3 de destinations de rêve depuis très longtemps. Et tant mieux, parce qu'en plus, ben, je connaissais toi là-bas, on a fait une conférence. J'ai deux super bonnes amies aussi qui ont fait du passeur artistique avec moi, mais ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vues, sont installées en Suisse. J'ai eu un mois de rêve. J'ai passé un mois là-bas, et même quand je rencontre des voyageurs, ils me disent « T'as passé un mois en Suisse? Comment t'as fait? C'est tellement cher, tu sais! » Fait que c'est souvent ça, les gens qui ont comme, comme perception. J'ai adoré ça. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est littéralement l'organisation, en fait, du pays, dans le sens que tout est à l'heure, tout est propre, la propreté. Écoute, je conduisais sur l'autoroute, je me disais, il n'y a même pas un petit morceau de papier là, sur l'accotement, tu sais. Donc, ça m'a vraiment impressionnée. Et le fait que peu importe t'es où dans le pays et peu importe tu regardes où, tout est beau. Que ce soit les Alpes au loin, que ce soit un beau lac, que ce soit des champs avec des vaches, que ce soit des petites maisons, des gros... Tu sais, tout est beau. Zurich aussi, la ville. Donc, ça, j'ai vraiment trouvé ça beau esthétiquement en termes de pays. Très varié aussi. Ce que j'ai aimé, c'est que comme... C'est un petit pays, hein, mais il y a la partie francophone, la partie plus allemande, la partie plus italienne. Donc, tu as comme beaucoup de culture et beaucoup de diversité dans un même petit pays. Et tu peux arriver à vivre à travers ces différentes cultures-là, mais avec les standards de la Suisse qui sont élevés. Donc ça, j'ai adoré découvrir vraiment toutes ces parties-là. J'ai fait effectivement un bon itinéraire. Je me suis promenée beaucoup, donc je suis super reconnaissante de ça. Et évidemment, que je parle du chocolat, c'est un podcast sur la nutrition aussi quand même. J'ai tellement mangé de chocolat, là. Mais ça a valu la peine. Et d'ailleurs, parce que la qualité était tellement meilleure, même pour les produits laitiers, moi ici, ben pas ici en Colombie, ben en Colombie aussi en fait, mais je veux dire, en Amérique du Nord, quand je suis au Québec, je mange pas de produits laitiers. Mais j'en ai mangé beaucoup en Suisse, puis j'ai pas eu de réaction inflammatoire, j'ai digéré tellement mieux, donc j'ai aussi apprécié la qualité de certains groupes d'animaux partout en Europe, mais évidemment en Suisse, que ce soit entre autres avec le chocolat et le fromage, donc... Ouais, la Suisse, c'était et ça va rester un coup de cœur pour longtemps.
Donc, tu confirmes tous les clichés sur la Suisse?
Tous les clichés, je les confirme.
Alors, je pense qu'on peut, je peux aller demander un petit sponsoring pour ce podcast à Suisse Tourisme pour le relancement de l'économie touristique après l'écoute de ce podcast. Je vois que c'est vraiment bientôt l'heure pour toi d'y aller, donc je vais te libérer, mais Déjà, merci énormément. C'est toujours un grand plaisir de partager. Je vais mettre à la fin de cet épisode, enfin dans les notes, sur YouTube, sur les plateformes de podcast, tous tes liens pour ton podcast, les réseaux sociaux. Enfin, si vous voulez travailler avec Claudia, je rappelle qu'elle fait ça en ligne. Donc, vous pouvez travailler depuis n'importe où dans le monde. Donc, n'hésitez pas. Et puis, envoyez vos questions dans les commentaires. Elle pourra y répondre aussi. Désolé pour celles auxquelles je n'ai pas pu répondre. Est-ce que tu as un mot de la fin?
La seule chose que j'ai envie de dire, c'est prenez une chose d'aujourd'hui. Essayez pas de tout changer dès demain matin. Choisissez une chose, une habitude, faites-en une grosse priorité dans les prochains jours et ça va être suffisant pour vous mettre dans un momentum, un rythme qui va avoir un effet sur votre santé et qui va faire boule de neige sur les autres habitudes. Donc, n'essayons pas de tout changer dès demain matin parce que là, on est motivé, on est inspiré par la conversation d'aujourd'hui. Choisissez une chose qui vous parle, grosse priorité, mettez en tête votre why, vos stratégies et ça, c'est suffisant pour faire des changements positifs là, dès cette semaine.
Trop bien. Bon, finissons là-dessus. Merci, Claudia.
Ben oui, merci à toi.
À très bientôt.
Oui, merci.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette interview avec Claudia. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Comme d'habitude, laissez vos commentaires, vos questions à Claudia. Si vous en avez, vous pouvez les mettre dans les commentaires sur YouTube. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, laissez une évaluation. Ça m'aide énormément. J'espère que cet épisode vous aura été d'une grande aide. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.